Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce débat des grandes voix historiques d'Europe 1. J'ai nommé Gérard Carrérou, Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve. Bonjour à tous les quatre, les grandes voix.
Bonjour, Sébastien.
Au sommaire, cette semaine, la situation explosive au Proche-Orient.
Rien ne justifie le lynchage d'Arabes par des Juifs et rien ne justifie le lynchage de Juifs par des Arabes. Nous ne pouvons pas accepter cela.
Le risque de guerre civile dans des villes mixtes évoqué par Benjamin Netanyahou à l'instant. Depuis le début de la semaine, plus de 130 morts côté palestinien, dont une trentaine d'enfants, 8 morts, 9 morts côté israélien, dont un enfant. Des comptes macabres et un conflit sans issue apparente. Vous nous expliquerez les grandes voix, le jeu cynique des politiques, les États-Unis en retrait, l'impuissance de l'Union européenne, le rôle en arrière-plan de l'Iran. Dans ce conflit passionnel, personne n'est gagnant. On va essayer de décrypter les enjeux géopolitiques et son éventuel contagion en France.
Il ne peut pas y avoir de manifestation de haine. Il ne peut pas y avoir de manifestation antisémite en France.
Gérald Darmanin a décidé d'interdire des manifestations pro-palestiniennes aujourd'hui à Paris. La décision du ministre de l'Intérieur, confortée par la justice, fait polémique. Deuxième grand débat du jour, les régionales avec en arrière-plan, bien sûr, la présidentielle. Encore beaucoup de rebondissements cette semaine dans les Hauts-de-France, en PACA. Il n'y aura finalement pas de liste LREM dans la région sud.
J'assume complètement, je ne le regrette pas, d'autant que sur cette région plane la menace du Rassemblement national.
La stratégie Macron se retourne-t-elle contre lui ? Même question dans les Hauts-de-France où pas moins de 5 ministres sont envoyés contre Xavier Bertrand et le RN. Le RN va-t-il en sortir gagnant ? Voilà pour le programme. Installez-vous confortablement, le débat des grandes voix, c'est parti. C'est un sujet explosif, passionnel, le conflit israélo-palestinien avec ses répercussions locales, régionales, mondiales. Alors on va essayer, si vous le voulez bien, les grandes voix, d'être le plus clair possible ce matin pour comprendre ce qui se joue actuellement au Proche-Orient. D'abord, les faits. Tout est parti de Jérusalem-Est, sa vieille ville, à 90% arabe, ses lieux saints, sa population, 300 000 Palestiniens d'un côté, plus de 200 000 colons israéliens de l'autre. Et cette cohabitation donc de plus en plus difficile, notamment parce que la justice israélienne a menacé d'expulser des familles palestiniennes, c'est cette étincelle qui a mis le feu aux poudres, une étincelle sur fond de paralysie politique dans les deux camps. Michel Cotta.
Paralysie politique dans les deux camps, aujourd'hui. Parce que, au fond, c'est comme, malheureusement, ce genre de conflit, on commence comme dans les cours de classe. On dit qui a commencé. Bon, là, objectivement, l'intervention de la police israélienne en pleine mosquée, le jour de la fin du Ramadan, est sinon une maladresse, un coup porté, évidemment, à cette fin de Ramadan. Bon, et puis, de l'autre côté, qui a continué ? Le Hamas par des tirs violents qui ne s'attendaient pas et pour la première fois donc déclenchant une opération armée. Donc c'est qui a commencé et comment ça continue et comment ça peut continuer étant donné que, au fond, le conflit israélo-palestinien n'est plus le conflit central du Moyen-Orient.
Alors, vous l'évoquiez, les tirs du Hamas, des milliers de roquettes, 2000 roquettes déjà tirées si Israël n'avait pas son bouclier anti-missile. Ce sont des milliers d'Israéliens qui auraient été tués. Rappelait d'ailleurs sur Europe 1 l'ambassadeur d'Israël en France. Je vous propose de réagir à ce qu'il disait, Daniel Saada, cette semaine sur Europe 1.
Nous sommes en train de mener une guerre de défense. Et c'est cette défense, la légitimité du droit à nous défendre, qui est en cause aujourd'hui. Nous considérons que le Hamas est responsable lorsqu'il pratique la politique des boucliers humains, lorsqu'ils prennent délibérément leurs civils pour servir de boucliers humains. C'est eux qui portent la responsabilité
de ces
pertes.
Mais ce sont aussi vos bombes, monsieur l'ambassadeur, qui tombent parfois sur des enfants palestiniens.
Nous sommes obligés de nous défendre et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de rendre ces frappes les plus chirurgicales possibles.
Charles Villeneuve, la guerre pour mieux se défendre. On a le sentiment de toujours entendre ce même discours. Comment sortir de cette escalade infernale qu'évoquait Michel Cotta, alors que les civils israéliens et palestiniens sont les premières victimes. Encore ce matin, une même famille palestinienne, 10 personnes ont été tuées.
toute façon, ce bras de fer ne se situe pas, si vous voulez, au cœur de la bataille qui se déroule aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte que le monde arabe a depuis longtemps abandonné la cause palestinienne. Ça, c'est la première chose. Et un autre état pivot a pris le relais, c'est l'Iran. L'Iran et le Hamas, si vous voulez, c'est un cordon ombilical qui est sans cesse alimenté au niveau des armes, au niveau des roquettes, et la réserve d'armes se trouve en Syrie, gardée par des pasdaran, c'est-à-dire la police politique, l'armée politique de l'État iranien, des mollahs iraniens. Cela étant, si vous voulez, bien évidemment, il faut bien se rendre compte que le Hamas, c'est une organisation terroriste, islamiste, djihadiste. Il ne faut jamais perdre de vue cette affaire.
Considérée comme telle, d'ailleurs, par l'Union européenne et les États-Unis, ce qui fait qu'il n'y a pas de dialogue avec cette organisation.
Oui, parce que tous les dialogues ont échoué.
Non, mais il y a un dialogue qui s'est établi au niveau de Washington. N'oubliez pas que le président des États-Unis a changé et que le nouveau président de la République n'est pas du tout, si vous voulez, dans les mêmes chaussures, je dirais diplomatiquement,
que
son prédécesseur sur ce plan-là. Et bien évidemment, la colonisation, si vous voulez, à outrance, indéniablement, fait que les Arabes israéliens, ceux qui cohabitent avec les Juifs israéliens, dans les villes moyennes notamment, se sentent de plus en plus mal à l'aise compte tenu des décisions de justice d'expulsion d'un certain nombre de familles
palestiniennes.
Et c'est ce qui a mis le feu, c'est ce qu'attendait, évidemment, le Hamas.
Catherine Ney, puis Gérard Carrérou.
Oui, je veux dire, la grosse bombe qui est arrivée sur Israël, c'est Trump. Parce qu'il a d'autorité, en négociant seulement avec Israël, il a décidé que Jérusalem était la capitale d'Israël, donc il écartait de fait les Palestiniens qui pensent que Jérusalem est la capitale d'un futur État qui sera peut-être un jour. Et d'autre part, en faisant venir l'accord d'Abraham avec où 5 pays sont venus soutenir le Maroc, j'ai oublié
les Émirats arabes unis,
le Soudan. Bon, je veux dire, Netanyahou pouvait penser qu'il y avait quelque chose qui était nouveau et que s'installait une sorte de paix, on n'en parlait plus. Bon, mais le fait d'avoir reconnu que Jérusalem était la capitale fait que des Juifs ont demandé à récupérer des appartements dans Jérusalem Est, le quartier palestinien. Or, la loi israélienne permet à des Juifs de récupérer des appartements qui leur appartenaient longtemps. Il y a l'effet rétroactif.
Avant 1948, avant la création de l'État
d'Israël. Alors que les Palestiniens qui voudraient faire la même chose n'y ont pas ce droit.
Absolument.
Donc c'est ça déjà la disparité de traitement entre les Arabes juifs, les Arabes juifs et les Palestiniens, vous avez compris.
Oui, moi je voudrais, beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas les répéter, je voudrais globaliser un peu le problème. On peut dire que de 1960, pas remonter à Mathusalem non plus, mais de 1970 jusqu'à 2010, pendant 40 ans, le problème palestinien a dominé l'histoire contemporaine. Et pas seulement pour la France, il était très important, souvenez-vous, depuis le général de Gaulle, on en parle, il était très important pour les États, il était très important pour le monde. Depuis, on peut dire, depuis maintenant 10 ans, même depuis 2010, je situe à peu près à ce moment-là, le problème palestinien est sorti de l'histoire. Sorti de l'histoire au sens, bien sûr, il reste un drame qui est un peuple palestinien, des millions de gens, dont certains vivent dans des conditions lamentables, qu'ils soient dans des camps de regrouper ici ou là, ou qui vivent même à Gaza, ou etc. Mais le problème, c'est que globalement, ce problème n'est plus un grand problème. C'est devenu, pour le monde entier, une affaire intérieure israélienne. Et c'était très exactement la vision de Trump, mais c'est très exactement celle de Biden. C'est-à-dire, les Israéliens, réglez votre problème, et nous, les Américains, on ne va pas entrer dans cette affaire. Et ça, c'est terrible pour les Palestiniens, parce qu'il ne reste plus finalement qu'un problème, et Charles l'a évoqué d'un mot, le seul problème qui compte pour les Américains dans cette partie du monde, c'est l'Iran. Alors vous me direz, tout se rattache, le Hamas est un produit de l'Iran, mais globalement, c'est une affaire intérieure.
C'est une affaire intérieure, d'autant plus que c'est un sous-secrétaire d'État américain qui gère du côté de Washington. On va continuer à en parler, Charles, juste après cette pause, à la fois de ce conflit au niveau local,
le secrétaire d'État,
régional c'est Blinken. Et international. A tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guillaume.
Le conflit israélo-palestinien au cœur de ce premier débat du jour avec les grandes voix, Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On évoquait le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se réunir demain après maint report. Comment jugez-vous l'attitude des États-Unis justement dans cette histoire, Michel Cotta?
Je ne voulais pas seulement parler des États-Unis, mais je voulais continuer ce qu'a dit Gérard. Oui, c'est un conflit qui s'est un peu dispersé dans le conflit général du Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, ce conflit-là, ce conflit israélo-arabe tel qu'on le voit, peut justement aboutir à une amplification des problèmes dans toute la région et peut rejoindre effectivement, et par l'Iran qui peut se mobiliser, et par le Liban et par la Syrie, peut devenir, redevenir à nouveau un problème essentiel, même si Charles a raison de dire que depuis longtemps, les Arabes ont laissé tomber les Palestiniens.
Oui, mais ce que je trouve, l'événement majeur, c'est que pour la première fois dans les villes mixtes où il y avait une cohabitation entre des Israéliens et des Arabes israéliens, eh bien là, on s'est lynché, il y a eu des morts et la haine est à son paroxysme. Alors, est-ce qu'on va vers une guerre civile? Comment on peut l'arrêter? Ça, c'est un fait nouveau.
Le risque de guerre civile, Charles Villeneuve, et la régionalisation du conflit, c'est ça aussi qui vous inquiète?
Moi, je ne crois pas que ce soit le principal problème. Le principal problème, c'est la reprise des négociations entre Washington et Téhéran sur l'accord sur le nucléaire. Et c'est ce qui régule tout le reste. Il y a deux choses sacrées, deux principes. Gérard l'a très bien évoqué. D'abord, on n'attaque pas Israël. Aucune chancellerie occidentale n'accepte qu'on fasse la guerre à Israël.
Ce qui a été
la deuxième chose, c'est que depuis 73 ans, le problème palestinien est dans une impasse. Ça, Gérard l'a très bien dit de toute façon. Et le problème, c'est de trouver un État palestinien. Et c'est ça la résolution du problème.
Un seul État et pas deux États côte à côte, c'est ça que vous voulez dire?
Absolument, mais cet État, il existe en pointillé, bien évidemment. Plus de 80% de la population jordanienne est palestinienne. C'était la solution Sharon. Et c'était la meilleure. N'oublions pas que ce sont les Anglais qui ont installé la dynastie hachémite à la fin de la guerre civile d'Arabie saoudite. Quand les wahhabites ont gagné, ils sont toujours au pouvoir en Arabie saoudite. Et qu'aujourd'hui, les hachémites ne représentent quasiment rien en Jordanie. C'est la solution de toute façon. Puisque, si vous voulez, les musulmans et les juifs ne coexistent très difficilement. Difficilement.
Gérard Carrérou, vous êtes d'accord avec Charles Villeneuve quand il dit que finalement tout ne dépend finalement que de Washington et Téhéran, quelque part?
C'est ce que j'ai dit en conclusion, en dernier mot de ce que je disais tout à l'heure. Mais moi je me souviens avec Charles, je crois que Charles était là, on était ensemble pour faire un club de la presse, ça devait être en 1975, je sais, avec Sharon, qui était ministre de la Défense, et Sharon, face à nous a dit, mais on lui posait évidemment la question, l'État palestinien, monsieur le ministre, et il nous a dit, mais il existe, effectivement, je me souviens, on était stupéfaits de l'entendre dire avec cette certitude.
Ah c'est bon, exactement
c'est la Jordanie. Il voulait dire par là que la géographie et effectivement la religion avaient leur loi, et qu'à partir du moment où il y avait cet État de Jordanie, où il y avait effectivement déjà à peu près 1 million de Palestiniens, c'était l'espace naturel. Sauf que ça, c'était une réflexion purement politique, même si elle avait une base, disons, juste. Et que le problème... Donc aujourd'hui, c'est la question... Moi, je dis que, contrairement peut-être à beaucoup d'entre nous, je ne crois pas que ça dégénère en un conflit à nouveau majeur. Je pense que ne serait-ce que pour une raison simple, les États-Unis et l'Iran sont face à face. L'Iran est dans une position d'extrême faiblesse. L'Iran essaye de renégocier quelque chose avec les États-Unis. L'Iran ne va pas souffler sur le feu pour mettre vraiment un énorme brasier au cœur du Proche-Orient.
Parce que sa situation économique
Je pense que donc ça se terminera au Conseil de sécurité demain peut-être par un début de trêve, on dira cessez le feu ou je ne sais quoi, et puis ça traînera pendant quelques mois. Autrement dit, je résume, je ne crois pas à une troisième intifada.
Bon.
La deuxième intifada avait duré plusieurs années, elle avait fait beaucoup de morts, je crois que celle-là sera très rapide.
Charles Villeneuve d'un mot.
Je suis assez d'accord avec Gérard. Simplement, j'ajoute l'autre va-t-en-guerre dans la région, qui est très important, qui joue aussi un jeu par rapport à ce conflit qui s'est allumé et ce déluge, si vous voulez, de roquettes sur Jérusalem et sur une autre. Et Lod, n'oublions pas Lod, qui est à quelques kilomètres de Tel Aviv, qui a été l'aéroport central de Tel Aviv, d'ailleurs. Et cet autre va-t-en-guerre, c'est la Turquie, et notamment les frères musulmans. Ils sont au pouvoir en Turquie. Et eux aussi jouent avec le feu.
Alors, pour revenir à Lod et à ce que disait tout à l'heure Catherine Ney. Catherine, ces risques de guerre civile, on a vu des scènes de lynchage. Mmh. Et on a d'ailleurs entendu le Premier ministre Benjamin Netanyahou faire clairement le point.
Rien ne justifie le lynchage d'Arabes par des Juifs. Et rien ne justifie le lynchage de Juifs par des Arabes. Nous ne pouvons pas accepter cela. Aux citoyens israéliens, je dis, cela ne m'intéresse pas que votre sang boue. Vous ne pouvez pas faire la loi. Vous ne pouvez pas prendre un simple citoyen arabe et le lyncher.
Gérard Carreau, vous ne croyez pas à la troisième intifada, mais Catherine Ney, est-ce que justement ce risque de guerre civile, c'est ce qu'il y a de nouveau, du jamais vu depuis 20 ans? Comment
vous
l'expliquez?
Oui, du jamais vu, et là quand Netanyahou dit pas de lynchage et tout ça, or c'est lui qui, pour se maintenir, s'allie avec l'extrême droite, qui est la plus xénophobe, la plus anti-arabe, et qui c'est une minorité très agissante, il est aux mains de cette minorité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir. Et depuis 3 ans, il y a eu 4 élections législatives. L'Israël, qui est une démocratie, meurt de son système électoral qui est la proportionnelle intégrale. Et aujourd'hui, on est à la merci d'une poignée d'extrémistes de droite et même de 4 députés islamistes très virulents et qui peuvent faire les majorités. Et là, normalement, Netanyahou est en fin de course, aurait dû démissionner pour n'être plus que le chef de l'opposition. Et là, grâce à la crise, il va peut-être encore se maintenir et peut-être changer la loi électorale. Et ça, c'est son projet.
Michel Cotta.
Oui, on ne peut pas parler de tout ce qui se passe sans parler de Netanyahou. Effectivement, il est en faiblesse. Effectivement, c'est lui qui a contribué à lancer la droite dure dans la bagarre politique. Et aujourd'hui, au fond... ça l'arrange, cette situation l'arrange parce que il en reste le maître. Il suffisait d'ailleurs de le voir apparaître à 2h du matin pendant les bombardements. Donc le problème Netanyahou n'est absolument pas à dissocier de ce qui se passe entre Irak arabe et israélien.
Et puis il y a un problème d'intégration. J'aurais dire un mot parce que Catherine l'a évoqué d'un mot. Il y a un problème effectivement d'intégration. Comme on parle ici chez nous du problème de l'intégration, on a effectivement une partie des Arabes. On disait la classe moyenne de ces Palestiniens, ils s'installent dans la société. Il y en a qui sont médecins, professeurs.
Mais c'est vrai. C'est vrai. Et la crise sanitaire a montré qu'ils étaient très précieux pour la population.
Absolument. Mais il en reste une partie qui eux ne sont pas très bien intégrés
et qu'on appelle les invisibles.
Et les invisibles. Et pour qui la religion? Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça? Et pour qui la religion, notamment les plus jeunes, devient un ferment de plus en plus fort? Et c'est ça qui est aussi à l'origine de la rébellion à Lod et dans un certain nombre de...
Et c'est en ça que ça rejoint quand même le conflit général du Moyen-Orient.
Il y a une chose.
On va devoir marquer une pause.
Il y a une chose qu'il faut remarquer, si vous voulez. C'est que l'État israélien est un État quand même démocratique. Et celui qui a lynché, notamment le Palestinien, sera certainement interpellé, arrêté, jugé.
Dans un instant.
Je me souviens de Sabra Shatila.
Oui.
Tous ont été jugés après le massacre, les responsables israéliens. C'est la caractéristique de l'État israélien.
Dans un instant, on va évoquer le risque de contagion de ce conflit en France avec l'interdiction, vous le savez, de manifestations pro-palestiniennes aujourd'hui à Paris, ce qui fait polémique. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Sébastien Guyot.
Jusqu'à 11h, en compagnie de Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney, qui continue à parler. On est à l'antenne, mes amis. Y a-t-il, on revient sérieux, un risque de contagion du conflit israélo-palestinien en France? C'est la menace brandie par le gouvernement pour interdire la manifestation pro-palestinienne aujourd'hui à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est justifié hier lors d'un déplacement à Lille.
Il ne peut pas y avoir de manifestation de haine, il ne peut pas y avoir de manifestation antisémite en France. Et donc j'ai pris la décision de demander au préfet de police d'interdire cette manifestation, vu les renseignements que nous avions, qui ne pouvaient pas se passer dans de bonnes conditions. Le conflit israélo-palestinien est un conflit évidemment extrêmement touchant pour la plupart de nos compatriotes. Nous avons tous une opinion, des sentiments face à ces images ignobles qui nous viennent d'Israël et de Palestine, mais il ne doit pas s'exporter sur le territoire national. Et je veux dire que nous ne devons pas revivre les scènes ignobles de 2014 dans les rues de Paris.
La justice a confirmé hier soir la décision de la préfecture et de Gérald Darmanin. Gérard Carrérou, pour vous, il a bien fait d'interdire ce rassemblement alors qu'il est autorisé dans d'autres villes de France?
Je répondrai sans hésiter oui. Et pour une fois, je pense que 80% des Français, alors il y aura toujours des gens qui diront le contraire, mais 80% des Français...
La France insoumise pensent, en particulier.
Je vais y arriver, Catherine, tu peux me faire confiance. C'est la sagesse.
Oui.
À moins de vouloir... Alors, je sais bien ce qu'on va m'objecter, on va me dire le droit de manifester, etc. Mais d'accord. Et il y a aussi, dans une situation particulièrement sensible de notre pays, le droit de ne pas créer des incidents irréparables. J'appelle incident irréparable le remake de ce qui s'était passé en 2014, lorsqu'on avait crié mort aux Juifs dans les rues de Paris et lorsqu'on avait porté atteinte à un certain nombre de boutiques ou de commerces cachers, etc. Si on a envie de revoir ça dans les rues de Paris, il faut dire allez-y. Allez-y, jeunes gens, faites des manifestations un peu partout.
C'est la raison pour laquelle Michel
Donc
Gota,
je suis pour l'interdiction absolue.
Parle de décision sage, mais elle n'est pas, elle est assez isolée à gauche. On a entendu le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, ou Jean-Luc Mélenchon dire que c'était un scandale
bien sûr, mais
de manifester.
On voit que c'est les incendiaires permanents. Si j'ose dire. Alors évidemment, ils sont assez d'accord. Mais il me semble que dans le contexte actuel, fortement marqué par la sécurité. En France, et dans le contexte entre l'intégration entre israélites et musulmans en France, y compris dans le quartier où ça a été annoncé à Paris.
Entre Barbès et République.
Entre Barbès et République, c'est évident que des heurts vont avoir lieu. Et d'ailleurs, je pense que l'interdiction ne suffira pas. Sans doute pas à éviter. Mais alors,
d'autant que les organisateurs appellent à maintenir cette manifestation.
Je te rappelle, Michel, que le 19 juillet 2014, la manifestation avait été interdite.
Voilà. Et oui,
justement.
Et
enfin,
que malgré cette interdiction, elle s'était tenue, qu'on avait pillé, cassé, et ce que vient de rappeler Gérard.
Je pense que si Madame Hidalgo, a raison, mais comme maire de Paris, une maire aujourd'hui soutiendrait une manifestation, quelle qu'elle soit, y compris de la CGT, maintenant, il y a de tels risques de débordement, et là, en particulier, c'est encore pire, parce que ça peut être une manifestation antisémite, que si on ne peut plus aujourd'hui, c'est un permis de casser, presque de tuer aujourd'hui, d'organiser.
Madame Hidalgo a jugé sage
pour sa réélection.
La décision d'interdire,
voilà.
Et elle a rappelé propos terribles comme mort aux Juifs qui avaient été proférés en 2014.
Voilà. Mais alors, ça veut dire qu'on ne peut plus manifester en France, quelle que soit la cause.
Ben non, il y a des moments...
Il y a 11 villes dans lesquelles, en France, vont se tenir les manifestations.
Alors pourquoi on les maintient là-bas et pas forcément à Paris ?
C'est le préfet qui apprécie s'il y a des risques pour l'ordre public. Il est clair qu'à Paris, évidemment, à Paris, il y a des risques pour l'ordre public. Donc à Paris, c'est légitime. À Strasbourg, je crois que c'est interdit. Il y a quelques villes déjà.
Là, vraiment, le quartier était choisi. Avouez qu'à Paris, le quartier était choisi.
Mais bien sûr, c'est une provocation.
Et puis le service de renseignement de la préfecture de police et de la direction générale de la sécurité intérieure a pas mal de renseignements sur des rendez-vous Black Bloc de quasiment l'Europe entière.
Sachant qu'initialement, cette manifestation, rappelons-le, était faite pour célébrer ce qu'on appelle la Nakba, la catastrophe lorsque 750 000 Palestiniens
avaient été chassés.
Non, mais justement, c'est la confusion entre les deux qui peut être fatale à une manifestation.
Oui, et puis on voit bien aussi le projet de Mélenchon aujourd'hui, parce que les ouvriers votent Rassemblement National, les fonctionnaires vont au PS. Lui, il essaie de faire le militantisme des insoumis, c'est les musulmans. C'est tout ce qui...
C'est le remplacement, de son électorat ouvrier par un électorat
C'est sa chair militante, croit-il.
Alors, dans un instant, on va changer de thème, si vous voulez bien, les grandes voix jusqu'à 11h pour parler des élections régionales. Ah, on en a bien parlé, on pourrait en parler en effet toute l'heure, je suis d'accord avec vous, Gérard Carrérou. Mais tout de même, du côté politique, les élections régionales, pas moins de 5 ministres désormais qui vont dans les Hauts-de-France pour contrer à la fois le Rassemblement National et Xavier Bertrand. Sans parler de PACA, où il y a eu encore beaucoup de rebondissements cette semaine. Là encore, c'est passionnant et c'est le prochain thème de notre débat. Tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Sébastien Guyot.
Toujours en très bonne compagnie avec Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. C'est officiel depuis hier, après Éric Dupond-Moretti. 3 nouveaux ministres sont envoyés dans les Hauts-de-France en renfort pour les régionales. En renfort de Laurent Pietraszewski, Gérald Darmanin, donc Alain Griset et Agnès Pannier-Runacher. 5 ministres pour contrer le RN et Xavier Bertrand. Ça fait beaucoup quand même. C'est quoi l'objectif, Catherine Ney, derrière cette tactique?
Il n'a pas changé depuis la semaine dernière, mais s'il y a autant de ministres qui viennent dans les Hauts-de-France, c'est pour essayer d'être des êtres moteurs qui vont soulever la liste de M. Pietraszewski qui ne décolle pas. Et s'il ne fait pas 10%, elle ne pourra pas se maintenir et ne pourra jouer aucun rôle. Donc, il faut absolument le soulever, essayer d'avoir 12, 15 pour après jouer un rôle pour le deuxième tour. Et évidemment, pour surtout nuire à Xavier Bertrand, c'est ça.
Hein. Est-ce que ça ne peut pas être contre-productif qu'on dise, bah, écoutez, les ministres n'ont pas des dossiers à gérer, ils n'ont pas autre chose à faire que de se lancer dans une campagne régionale ?
Oui, ça c'est la première fois, c'est pas la première fois quand même que des ministres font des campagnes, et même on leur reproche souvent de ne pas entrer en campagne, de rester à l'extérieur, etc. Mais moi, il me semble que ce que démontre au fond ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en principe, les régionales n'ont rien à voir avec la présidentielle. Hein. Ce sont les républicains et les socialistes, c'est-à-dire les présidents en sortant, qui se partagent les rôles. Et la présidentielle, on sait que c'est tout le contraire, puisque tous les sondages montrent que Macron-Le Pen restent les deux finalistes. Mais en réalité, je trouve qu'on voit que les régionales sont l'antichambre, là, pour le coup, de la présidentielle, et au fond, sur deux raisons et deux régions. Un, il ne faut pas oublier PACA.
PACA, on va en parler après.
La lutte contre le FN est un ciment entre La République En Marche et Renaud Muselier. Mais il y a aussi un désir de ne pas voir, bien sûr, le Front National arriver en tête, mais surtout, dans le Nord, une volonté de défaire celui qui a eu un petit... qui marque une avancée, c'est-à-dire Xavier Bertrand. Et c'est vraiment la volonté de démolir en même temps que le RN, celui qui peut représenter une certaine droite classique à la future élection présidentielle.
Et la stratégie du « en même temps », une nouvelle fois, Charles Villeneuve.
Moi, je dis qu'en vérité, Emmanuel Macron, le président de la République, est en train d'organiser un référendum pour ou contre Bertrand dans les Hauts-de-France. C'est-à-dire, de, comme le vent ne souffle pas dans les voiles de la liste d'En Marche, d'essayer, en envoyant cette armada ministérielle, de gonfler la voile, justement, de La République En Marche, pour mettre Bertrand face à un choix cornélien. C'est-à-dire, soit risquer de perdre seul, soit de s'allier avec La République En Marche pour sauver son poste de gouverneur, en quelque sorte, des Hauts-de-France.
La République En Marche lui disant « On vous apportera nos voix si vous restez bien dans la région et si vous ne partez pas aussitôt en campagne. »
C'est un chantage.
C'est pour l'empêcher
de
se présenter.
Un référendum.
Gérard Carrérou, sachant que la voile dont parlait Charles Villeneuve, elle est à 10% à peu près dans les sondages aujourd'hui. Très loin derrière la gauche unie à 20%, Sébastien Chenu, RN 32% et Xavier Bertrand 35%.
Oui, c'est une stratégie à double détente. Je pense que peut-être d'ailleurs le président de la République se souvient d'une imprudente déclaration de Fillon disant « si je suis mis en examen, je quitte ». Et là peut-être se dit-il « Bertrand a fait une erreur en disant « si je suis battu dans ma région, je pars ». Ouais. En tout cas, c'est-à-dire, c'est une stratégie à double détente. Première détente, éliminer Bertrand s'il perd, il part. Hop, exit Bertrand. Deuxième hypothèse, sauver Bertrand en lui amenant, même s'il n'en veut pas, même s'il dit qu'il n'en veut pas, l'électorat, le petit électorat LREM au deuxième tour, pour le déconsidérer.
Quitte à faire quoi ?
On le mouille en disant, voyez Bertrand, sinon il était battu, il était aux abois avec le Front National, et il s'en est tiré parce qu'on a voté pour lui, et quelque part ça l'abîme. Ça le considère
on
pas forcément,
ça.
Mais c'est la
on n'a pas
et
dit ça lorsque, lorsqu'il a été élu avec les voix de gauche.
On n'était pas dans le même contexte.
Mais là aussi, il aura besoin aussi.
La gauche n'était pas dans le même état. Rien n'était dans le même état.
Si le parti présidentiel est si bas, même avec la présence des ministres, déjà, ça démontrera, c'est très, très ennuyeux pour les ministres. Hein. Ils se mobilisent tous, Darmanin... C'est
et pas pour le président dans un an.
Ce sera très embêtant pour le président dans un an. Ouais. Mais surtout, la gauche a fait 20% des voix, à peu près. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus importante que... elle est double par rapport à La République En Marche.
Dans
par conséquent, comme personne n'est propriétaire de ces voix, il y aura aussi une partie de la gauche qui ira vraisemblablement sur Bertrand, Bon, et de toute façon, moi, je trouve que cette mobilisation contre Bertrand le fait exister, en quelque sorte.
Encore mieux
au fond,
qu'avant.
On se demandait,
ah,
mais après
tête,
tout,
hein.
Il a pris 3 points de plus, ça ne suffit pas. En réalité, cette mobilisation montre qu'aujourd'hui, c'est l'homme à abattre d'une
certaine
façon.
C'était un candidat moyen, j'avais dit ici, quand on en a parlé la première fois, c'est un candidat moyen. Mais c'est un moyen qui moyenne beaucoup.
Oui, vous étiez dans les points moyens et là,
il va arriver en catégorie supérieure.
Mais l'idée du président de la République, elle est réversible aussi. Hein, puisqu'il paraît qu'il lutte contre le Rassemblement national, autant se retirer justement pour laisser Xavier Bertrand finalement lutter contre le Rassemblement national. Parce qu'on ne peut pas douter justement de son opposition au Rassemblement.
Oui, en tous les cas, quand M. Dupond-Moretti se présente, il est de Maubeuge, hein, ce qui est à 150 km du Pas-de-Calais, où il veut vraiment éradiquer le Rassemblement national. Mais quand même, je pense qu'il ne va pas réussir, parce que le Pas-de-Calais, là où est élu Marine Le Pen, où il y a c'est le département, où peut-être dans le Nord, où elle a le plus d'électeurs. Dans certains petits villages, elle a fait jusqu'à 60%. Alors, ce n'est pas partout pareil, mais c'est une moyenne entre 35 et 45. Donc, moi, je ne pense pas que, quel que soit son talent, Éric Dupond-Moretti va faire beaucoup baisser le Rassemblement national dans le Pas-de-Calais.
Alors, mais il joue le national.
S'il a un résultat local qui n'est pas bon, il ne pourra pas jouer le national.
Il y a un clair de lune. Et il n'y a pas des friandises aussi.
Alors, c'est les bêtises de Cambrai.
On va suivre ça.
Bien sûr, ces 5 ministres dans les Hauts-de-France. Aucun en PACA, donc c'est la stratégie totalement inverse. On va analyser cela tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Dernière ligne droite pour ce débat des grandes voix en compagnie de Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michel Cotta et Catherine Ney. À quoi joue Emmanuel Macron pour les régionales? C'est le thème de notre débat dans la région sud. À présent, après avoir parlé des Hauts-de-France, après une nouvelle semaine de rebondissements, la majorité a finalement renoncé à présenter sa propre liste. Et Renaud Muselier, lui, a présenté sa liste avec des membres de la majorité, finalement. Pas de ministre, pas de parlementaire. Beaucoup de réactions, on l'a entendu. À droite, pas de condamnation officielle de LR. Mais écoutez le numéro 2 qui s'est exprimé à titre personnel, Guillaume Pelletier.
J'irai voter, mais blanc. Compte tenu de l'absence, surtout, d'une liste En Marche, donc de ce piège dans lequel est tombé Renaud Muselier, moi, à titre personnel, il est hors de question que je soutienne une quelconque liste liée de près ou de loin à Emmanuel Macron.
Et la réponse de Renaud Muselier ?
J'ai un message très spécifique pour ma famille politique. Ceux qui se compromettent aujourd'hui en appelant à ne pas voter pour moi sont des irresponsables et nous soutiennent de fait le seul traître de cette élection, Thierry Mariani. J'en appelle à la responsabilité de chacun et à la fin de l'hystérie. Ils remettent en cause la ligne rouge héritée de la fondation du RPR, de l'UMP et des Républicains. Pas de compromission avec l'extrême droite et avec le Front National.
La droite qui se déchire, ça fait le jeu du Rassemblement National in fine.
Bah écoutez, simplement aborder ça d'une manière globale. La situation de la France politique, elle est quand même, pour le moins, j'allais dire ubuesque, mais je dirais simplement paradoxale. Vous avez les Républicains, une force de droite classique qui représente en gros autour de 15-20%. Je parle d'élections passées, bon, pour l'instant, aujourd'hui, disons 15-20%. Vous avez un Front National, là encore, les élections passées, qui tournent autour de 25-30% certaines élections. Vous additionnez les deux, vous êtes à 50% ou au-delà de 50%. Dans n'importe quel pays démocratique normal, l'addition de ces deux forces fait l'élection. Et pourtant, on ressort quelque chose qui date effectivement maintenant, qui est la ligne rouge de Jacques Chirac. je pense qu'il y a quelque chose d'irréel dans cette idée de sortir la toujours à la ligne rouge, ça veut dire très précisément, c'est un scandale absolu de voter pour le Front National et vice-versa. Ça veut dire que la droite a le choix, ou elle continue à se désagréger, comme elle le fait d'ailleurs, et on le voit à longueur d'élection, ou alors, elle, à un moment ou à un autre, il y a une forme d'alliance à la Mitterrand. Et quand je dis à la Mitterrand, on comprend Mitterrand, les socialistes et les communistes, ensemble, ils pouvaient, gagner.
Tu veux dire Marine Le Pen
voilà. Simplement, faudra-t-il attendre le changement de leader du Front National pour en arriver là, donc perdre la prochaine présidentielle.
Je veux dire l'alliance pour mieux la réduire.
Non, ce qui est sûr, Michel c'est Cotard. Que quand même, dans cette affaire de PACA, après beaucoup de désordres, c'est finalement les Républicains qui ont lâché. Enfin, l'état-major républicain a laissé faire une liste unique. Mais on voit bien qu'il est complètement coincé, qu'en ce moment, les Républicains sont coincés entre, d'un côté, moi j'ai fait la liste de tous les gens qui viennent des Républicains et qui figurent maintenant sur des listes du Front National. Il y en a beaucoup, hein. Il y a Yves Bonnet, Gilles Platret, enfin, ben, je ne vais pas vous donner la liste. Un peu partout, en Occitanie, par exemple, avec Garot, on voit une grosse pêche à la ligne.
Vous voulez dire que l'union des droites et de l'extrême droite je veux dire que
le mouvement national, le Rassemblement national attire à lui beaucoup d'anciens républicains, pendant que les anciens républicains sont coincés de l'autre côté entre Macron, qui occupe un espace de la droite. Par conséquent, quand même, on peut pas être d'accord, je suis quand même assez persuadé que les républicains jouent aussi une partie de leur vie, pas sans doute dans les régions où la plupart seront réélus, mais pour plus tard, les républicains risquent simplement de disparaître.
Charles Villeneuve, les républicains risquent de disparaître.
Mais vous vous souvenez que samedi dernier, on avait dit que toute cette affaire, notamment finalement l'émiettement des républicains, parce que c'est ce qui est en train de se produire, profitera notamment aux candidats du Rassemblement National. Et on l'a vu.
Le sondage de la semaine l'a montré.
Puisque le dernier sondage, il a pris 5 points, Thierry Mariani.
Il l'emporterait au second tour, qu'il arrive.
Oui, et ça pousse d'ailleurs une partie de l'électorat des Républicains de la Côte d'Azur, de Provence-Côte d'Azur, région que nous connaissons bien, aussi bien Michel que moi, dans les bras de Mariani, qui est le plus présentable des candidats à Rassemblement National en Provence-Côte d'Azur. C'est un ancien chiracien, c'est un ministre de Nicolas Sarkozy, c'est un député maire RPR de Valréas, 3 fois de suite, etc. etc. Et donc, de toute façon, le fait que l'état-major des Républicains ne sait plus finalement où donner de la tête dans cette affaire, fait que l'une partie de la stratégie du président de la République a réussi.
Alors justement,
puisqu'il est en train, finalement, d'assécher les Républicains.
Oui, mais peut-être de faire élire le Rassemblement National.
Exact.
Donc, mais tout ça pour expliquer que demain, il sera le rempart, c'est ça, après avoir contribué à casser la droite, quand même.
Donc, quelle que soit la région, que Muselier, le sud ou les Hauts-de-France, peu importe de gagner les régions, ce qui compte, c'est de cristalliser un duel.
Mais objectivement, il fait le jeu du Rassemblement National.
Ben oui, absolument. Mais Muselier... Là, je me disais au fond pourquoi, maintenant qu'il a fait sa liste, les Républicains auraient intérêt à le soutenir, parce que ça serait une région républicaine, quoi. On peut dire ça. Mais les Républicains disent, mais nous sommes un parti d'opposition, la façon dont on nous a forcé la main est insupportable. Et surtout, sur sa liste, Muselier a sorti des sortants républicains pour mettre des gens de la société civile dont on me dit que la plupart sont en fait des En Marche déguisés.
Parce qu'officiellement...
En plus, voilà, il n'y en a que 15, mais en fait, ils sont beaucoup plus.
Voilà,
alors c'est ça, et ils ont l'impression que Muselier leur a menti et les a grugés deux fois. Voilà,
donc... Oui, non, voilà, mais les électeurs ne sont pas à la propriété. Le mal est fait. Elle a raison, Catherine. Le mal est fait pour les Républicains. Donc cela étant, ce ne sont pas les sondages qui font l'élection.
Non, mais s'il y avait deux régions... Pour l'instant, on ne fait pas de la prospective.
L'affichage peut être...
Mais s'il y avait un affichage à deux régions pour le Front National, croyez-moi, le contexte général de la présidentielle serait...
Ben, c'est pour ça que je disais que les élections régionales sont quand même une répétition nationale.
Surtout quand elle est aussi proche de la présidentielle. Je trouve qu'il y a une leçon qu'on ne tire pas de toute cette stratégie du président de la République.
Et on va suivre ça, non, bien entendu, d'ici au 20 juin, parce qu'il va se passer beaucoup de choses d'ici au premier tour des régionales. Et dès la semaine prochaine, en effet, pour notre prochain débat des grandes voix. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Europe1.fr. Merci à Jean-Luc Arblade à la réalisation. Merci à Capucine Patouillet pour son aide précieuse pour cette émission. Et tout de suite, en direct d'une ferme en Normandie, c'est cela, mon cher Laurent Mariotte, la table des bons vivants.
C'est exactement ça. Bonjour Sébastien, bonjour les grandes voix. Oui, nous sommes en direct de la ferme de la Mondière à Orbec, dans le Calvados, le pays de la beurre, du beurre, de la crème et des fromages. Qu'est-ce que je vous rapporte, Catherine?
L'agneaule
aussi.
Oui, voilà, tout ce qui te fait plaisir.
Un Calvados hors d'âge.
Oui, ça sent la pomme. Ça sent la pomme, il y en aura, absolument. Et nous allons nous mettre à la table de Flaubert également. Et Gaëtan Roussel nous fait l'honneur et la joie d'être avec nous. Il chantera en live d'ici un instant. On vous attend.
Et quel programme. Bonne émission à vous, la table des bons vivants, dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.